EPRA, EPRA.
Père fidèle qui est la plus éloignée de nous.
Le recrutement de travailleurs destinés aux usines d'armement.
Parce que si on allait chez nous, on travaille un jour, on gagne 12,50 €. Et si on demande à molester, on gagne 10 €.
Sur lui, il y a une procédure d'expulsion qui est en cours.
Un objectif de reconduite à la frontière pour les clandestins augmenté encore de 50%.
EPRA, EPRA, échange de production radiophonique.
Chaque personne doit passer un test.
Émission de reportage.
J'ai rencontré quelques pathologies assez rares qui n'existent pratiquement pas en France.
On se rend compte qu'il y a quand même quelque chose d'étrange au fait qu'on n'en parle pas.
Sur Divergence FM 93.9.
Bonjour, l'EPRA pour résumer, c'est une banque de programmes radiophoniques alimentée par certaines radios associatives partout en France et par RFI, Radio France Internationale. Divergence FM propose ces programmes dans des thématiques précises comme la lutte contre les discriminations, la lutte contre le racisme, les portraits d'artistes qui œuvrent pour la diversité culturelle, la solidarité ou encore des reportages sur la politique de la ville. Dans cette émission, vous écoutez très régulièrement des reportages réalisés par Vincent Pourageau pour Divergence et pour l'EPRA. Et puis, vous pouvez parfois entendre des reportages réalisés par d'autres radios associatives. Et ce sera le cas aujourd'hui avec deux reportages autour d'une même thématique. Deux reportages réalisés par la radio nîmoise Alliance Plus pour le premier et par la radio nantaise Jet FM pour le second. De reportages réalisés à l'occasion du Forum Espoir Banlieue qui s'est tenu à Nice le 9 avril 2010. Comme chaque année, depuis 3 ans, la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville, Fadela Amara, organise le Forum Espoir Banlieue, une dynamique pour la France, c'est son titre. Alors ils travaillent dans des associations, ils sont décideurs politiques ou économiques, ils habitent des ZUS, comprenez, zones urbaines sensibles. L'objectif de cette rencontre est de faire le point sur ce qui va, sur ce qui ne va pas dans différents domaines. Comment réduire les écarts territoriaux pour réduire les inégalités sociales ? C'est donc là l'une des questions posées par Fadela Amara. Plusieurs intervenants ont tenté de répondre à cette question en mettant en avant tout ce qui se fait en matière d'éducation, notamment parmi eux Jean-Michel Blanquet, directeur général de l'enseignement scolaire, Jean-François Bourdon, proviseur de l'internat d'excellence de Sourdin, ainsi que Hubert Bonal, délégué à l'égalité des chances au sein du groupe HEC. Le premier de ces reportages est réalisé par Anne-Lise Claire d'Alliance Plus à Nîmes. Nous écouterons ensuite celui de Magali Grolier de Jet FM à Nantes.
Chaque année depuis 3 ans, Fadela Amara, la secrétaire d'État chargée de la politique et de la ville, organise le Forum Espoir Banlieue, une dynamique pour la France. Cette année, il a eu lieu à Nice, c'était le 9 avril dernier.
Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables des associations, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les acteurs de terrain, mesdames et messieurs, chers amis. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Ici, à Nice. Comme vous le savez, c'est le 3e rendez-vous de la dynamique Espoir Banlieue. Rappelons-nous, quand on a commencé la dynamique Espoir Banlieue, j'ai souhaité que se tienne chaque année un rendez-vous dans lequel nous nous retrouvons tous, à la fois évidemment les acteurs de la politique de la ville, évidemment les élus, évidemment les chefs d'entreprise, mais surtout, et vous le savez bien, les acteurs de terrain que sont les associations, puisque les associations sont pour moi, je le dis et je le répète toujours, des partenaires extrêmement importants pour le travail au quotidien qu'elles font sur le terrain, et notamment sur la manière, le courage et la force, surtout quand la situation est difficile, et c'est le cas aujourd'hui, puisque nous traversons une crise très très importante, ce travail au quotidien qu'elles font, de proximité pour créer du lien social, pour renforcer le pacte républicain. Alors pour ce 3e forum, nous avons et j'ai des objectifs qui sont très très précis. Vous connaissez mes positions. Je me battrai, je suis déterminée à me battre pour atteindre cet objectif politique simple, la réduction des écarts territoriaux pour la réduction des inégalités sociales. C'est pas une mince affaire, on ne va pas se raconter d'histoire. Ce n'est pas facile, il faut mobiliser tous les acteurs. C'est pour ça que la dynamique Espoir banlieue a été créée. Elle mobilise à la fois évidemment l'État avec l'ensemble du gouvernement. Elle mobilise les collectivités locales sur leur domaine de compétences. Mais elle mobilise aussi le monde de l'entreprise. C'est avec vous que nous allons réduire les inégalités territoriales, donc les inégalités sociales. Je compte sur vous pour faire de ce rendez-vous un rendez-vous riche, fructueux. Soyez force critique, mais soyez aussi force de proposition. La dynamique Espoir banlieue, c'est de la politique sur mesure. C'est une politique qui se veut totalement réponse aux besoins des territoires et aux besoins des gens qui habitent ces territoires. Donc n'hésitez pas, participez, soyez réactifs. Et moi, je suis convaincue, parce que je l'ai toujours dit d'ailleurs, comme le dit régulièrement le président de la République, nous savons qu'il y a non seulement des compétences dans les quartiers, mais qu'il y a aussi des talents. Faisant la démonstration, j'en profite pour ouvrir donc officiellement le 3e forum d'Espoir banlieue. Bon travaux.
Ils travaillent dans des associations, ils sont décideurs politiques ou économiques, ils habitent des quartiers, des us, les zones urbaines sensibles. Ils sont venus à Nice pour faire le point sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Car les difficultés au quotidien sont nombreuses dans les quartiers. Chômage, absentéisme à l'école, insalubrité dans les logements, problèmes de santé, barrière de la langue, bref, vivre aujourd'hui en banlieue, ce n'est pas toujours simple. Alors comment réduire les écarts territoriaux pour réduire les inégalités sociales? C'est l'une des questions, vous l'avez entendu, posée par Fadela Amara. Les faits sont là dans les quartiers dits de la politique de la ville, les quartiers difficiles, l'échec scolaire est plus important qu'ailleurs. Pour réduire cette inégalité, plusieurs dispositifs ont été mis en place. Ce sont les cordées de la réussite, l'accompagnement personnalisé des internats d'excellence ou encore les écoles de la deuxième chance. Mais ce n'est pas suffisant, comme le précise Jean-Michel Bouquer, directeur général de l'enseignement scolaire.
Il n'y a pas un instrument qui serait une sorte de baguette magique pour travailler sur cette excellence des élèves dans des quartiers défavorisés, mais qu'il y a bien entendu une série d'instruments qui d'ailleurs peuvent être différents selon les étapes de la scolarité. Mais je pense qu'il faut toujours insister sur plusieurs facteurs. Le premier facteur que je souligne souvent, c'est celui de l'implication de la famille dans la scolarité de l'enfant. C'est un facteur de réussite considérable, et ce, dès l'école primaire. Donc nous multiplions les expérimentations, mais aussi les mesures générales qui permettent de développer cette implication des parents. La politique de la ville favorise ce type de mesures. Souvent, les collectivités locales font beaucoup de choses en la matière. On a, comme pour d'autres mesures de la politique de la ville et de l'éducation nationale, des évaluations scientifiques de ce que nous faisons en la matière. Et nous voyons déjà un impact très important sur à la fois le comportement et la réussite scolaire de ce type de mesures. De façon plus générale, il est important aussi de savoir faire évoluer les politiques d'éducation prioritaire. Les politiques d'éducation prioritaire sont encore un peu plus âgées que les politiques de la ville. Elles datent du début des années 80 et elles ont besoin de se renouveler. Ça a été le cas il y a 4 ans avec les réseaux Ambition Réussite. Nous arrivons désormais à une nouvelle phase. Hier, Luc Châtel a eu l'occasion, pour clôturer les états généraux de la sécurité à l'école, de parler de cette question, notamment en proposant plusieurs mesures, dont l'une d'ailleurs avait été faisait partie de suggestions de Madame la ministre Fadela Amara, qui était d'arriver à ce que les collèges en ambition réussite puissent avoir une nouvelle logique de recrutement, que notamment on ait des équipes plus stables, plus cohérentes, parce qu'on sait que là aussi c'est un des très grands facteurs dans les quartiers difficiles, que d'arriver à ce que les équipes soient plus soudées, plus permanentes aussi, parce qu'on a une très grande circulation des professeurs dans ces zones. C'est un sujet évidemment que nous traitons de façon très attentive, mais qui nous oblige à faire évoluer nos instruments de gestion. Et puis je dirais, par-delà ces mesures fondamentales qui ont trait soit aux parents d'élèves, soit au fonctionnement institutionnel, soit à l'aide directe que l'on peut apporter aux élèves, et là on peut penser à tout ce qui est fait depuis 2 ans en matière d'accompagnement éducatif, et qui est là aussi est venu compléter ce que font les collectivités locales en la matière. Eh bien, il y a les politiques spécifiques. Il serait trop long de les citer toutes. C'est vrai que j'ai à cœur souvent de souligner la question des internats d'excellence, mais c'est une politique qui est aujourd'hui en pleine ascension, notamment grâce au grand emprunt, puisque il y a 200 millions d'euros au moins qui sont dédiés à ça, et peut-être même un peu plus. Alors, la ministre a l'air de dire plus. Donc certainement plus. Et il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose d'extrêmement concret, c'est-à-dire qu'on amène 20 000 élèves, lorsque ce sera à plein régime, 20 000 élèves, auxquels on donne les conditions de vie, les meilleures qui soient, pour les amener à la plus grande réussite, cette réussite pouvant être différente d'un élève à l'autre, mais en tout cas on les mène le plus loin possible avec des conditions les meilleures.
Je vous interromps un instant, effectivement dans le cadre du grand emprunt, c'est 500 millions d'euros qui seront consacrés à ces créations de places supplémentaires et ces dispositifs d'accueil.
Donc les internats d'excellence, c'est évidemment une des pistes très importantes, ça n'est pas la seule. Sans rentrer dans le détail de toutes les mesures en matière d'éducation de la dynamique Espoir banlieue, je crois que c'est important d'insister sur les mesures qui vont dans le sens de la mixité sociale. Le busing en fait partie, même si c'est encore modeste à ce stade, mais c'est une mesure importante. La question qui, elle aussi, est très articulée avec les questions de rénovation urbaine, c'est la question de la reconstitution de collèges. Lorsque un collège doit être transformé, et donc en réalité détruit et reconstruit, pour repartir sur des bonnes bases. Là aussi, plusieurs projets sont en cours actuellement en la matière. Et puis, il y a toutes les mesures qui développent l'accompagnement éducatif de façon générale. Et là, désormais, il faut rappeler que tous les collégiens de France sont concernés par cette politique, de 16h à 18h, que cette politique essaye d'associer les familles au maximum, que tous les écoliers de France sont potentiellement concernés, que ce soit par des politiques locales ou par des politiques nationales, et que de toutes les façons, il y a 2 heures d'aide personnalisée désormais pour chaque élève à l'école primaire. Et puis enfin, que dans le cadre de la réforme du lycée, il y a aussi cet accompagnement personnalisé qui fait partie de cette politique générale, qui a pour but d'abord de mener les élèves le plus loin possible, que ce soit dans l'enseignement professionnel ou dans l'enseignement général et technologique, et donc de les préparer à cela. D'où l'importance du lien avec l'enseignement supérieur, d'où l'importance de cette notion de cordée de la réussite, puisque les cordées de la réussite, c'est l'idée d'un continuum qui va du collège à l'enseignement supérieur, c'est l'image de la cordée, et qui fait que l'on évite les grands trous noirs que sont dans le système éducatif, le passage du collège au lycée, le passage du lycée à l'enseignement supérieur, en donnant des clés aux élèves pour passer d'un stade à l'autre. Donc ça passe par l'accompagnement personnalisé, qui lui-même inclut beaucoup les sujets d'orientation. Dans le cadre de la réforme du lycée, les élèves vont avoir 2 heures d'accompagnement personnalisé par semaine, ce qui inclut des moments de réflexion et de dialogue sur l'orientation. Et puis, les élèves boursiers sont incités à entrer dans les filières d'excellence, et notamment dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Et on a un objectif qui est déjà atteint, en réalité, d'avoir 30% d'élèves boursiers dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Cet objectif lui-même est, je dirais, à lui tout seul, tout un programme. Et puis, bien entendu, tout un travail fait avec le ministère de l'Enseignement supérieur a permis ces dernières années, notamment dans le cadre du plan licence, là aussi d'apporter une aide personnalisée aux élèves qui en ont besoin.
Our way so many times.
Parmi les dispositifs mis en place pour réduire les inégalités en matière d'éducation, il y a l'internat d'excellence. Le premier a ouvert ses portes en août dernier en Seine-et-Marne à Sourdin. Il accueille des élèves de 4e, 3e et 2e. En tout, ils sont 120 élèves. Jean-François Boudon est le proviseur de cet internat à Sourdin.
Nous avons d'abord des bébés en pleine croissance. À la fois les élèves que j'ai, puisqu'on les a vus d'abord performer à l'école, de plus en plus, dans leurs résultats scolaires. Et nous sommes un groupe d'adultes qui les encadrons et qui avons su faire preuve de patience. Certains élèves ont tout de suite pris tous les atouts qu'il y avait dans l'établissement pour réussir. D'autres ont démarré, ont eu le déclic en novembre, en décembre, en janvier. Je pense à une élève, Célia, il y a eu le déclic il y a 2 semaines. Ça veut dire qu'il faut savoir aussi
et c'est encore,
porter un cadre.
C'est encore efficace, c'est-à-dire c'est avoir encore... un déclic pour un élève au mois d'avril.
Le déclic fait que l'élève, tout d'un coup, prend 3 points de moyenne générale sur tout son bulletin. Voilà, ça veut dire que le cadre a fini par s'instiller dans sa vie et ses références ont changé. Et à partir du moment où l'élève se met en mouvement, c'est tout de suite payant. Évidemment, il y a tout l'encadrement autour pour le porter et l'aider. Mais donc, ça veut dire qu'il faut de la patience. Alors, ce que nous proposons, en fait, sur l'internat d'excellence de Sourdin, c'est presque un résumé, un concentré de la politique du ministère. Alors, on ne va pas chercher à tout faire, mais en tout cas, vous y retrouverez des propos de Monsieur Blanquer. D'abord, c'est des élèves de 4e, 3e, 2e cette année, qui seront de la 6e à la 1e l'année prochaine, et des classes préparatoires à la fois scientifiques et économiques. Donc, 300 élèves et étudiants à la rentrée prochaine, 550 à la suivante. Il y a un double objectif. Le premier d'abord, c'est de mettre en place, en s'appuyant sur la loi Fillon, qui dans son article 34 permet des expérimentations pédagogiques. Ça veut dire d'organiser le temps scolaire de façon la plus efficace possible. Les moyens qui nous sont donnés sont des moyens à peu près équivalents à ceux d'un établissement de zones sensibles, à nous de les organiser autrement pour les rendre plus efficaces. Ça veut dire que certaines classes se font à 20 élèves. Ça veut dire qu'on peut au contraire regrouper pour un cours de français 2 classes à 40, parce que c'est plus utile de travailler comme ça. Ça veut dire que l'apprentissage de l'anglais se fait systématiquement en laboratoire de langue, de façon systématique. Ça veut dire aussi que tous les élèves ont 3 à 4 heures par semaine des interrogations écrites ensemble. Ils sont regroupés comme dans un examen. Ça, c'est la partie scolaire dont on a pu mesurer qu'il était efficace. Et puis, il y a une partie internat qui est la partie des ateliers que nous proposons aux élèves pour un épanouissement personnel. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut être bien dans sa peau pour réussir à l'école. Donc, nous nous appuyons sur 2 domaines. Le premier, c'est le sport. Alors, nous avons récupéré une caserne, donc l'espace permet de faire du VTT. Dans cette caserne, il y avait un centre équestre, on y fait de l'équitation, mais on y fait aussi du foot de façon tout à fait traditionnelle. Et puis, certains sports qu'on a voulu un peu décaler, comme l'escrime et comme le tir. Alors, peut-être aussi parce qu'on a récupéré une caserne de hussards et qu'on a retrouvé quelques-unes de leurs armes. Mais en tout cas, on leur propose des sports différents. Voilà. Et puis un deuxième type d'atelier qui sont des ateliers de pratique artistique. C'est-à-dire que les élèves ont l'obligation de suivre dans la semaine qui un atelier théâtre, qui un atelier écriture de roman, qui un atelier photographie, qui un atelier danse. Et ça, c'est donc la deuxième partie de la journée. Et puis, de façon parallèle, avant et après le repas du soir, il y a les études. Des études encadrées. Là encore, on essaye de s'approcher au maximum du besoin de l'élève. Entre des surveillants et des professeurs, on va déterminer quel est le groupe d'élèves qui peut très bien faire ses études tranquillement à 25 ou 30 dans une salle, et quels sont les autres qui ont besoin d'être à 4 et d'être suivis particulièrement par un professeur.
À la lumière de votre expérience, à la lumière de cette année passée, qu'est-ce que vous allez faire changer un tout petit peu à la rentrée prochaine ? Ou est-ce que tout est parfait?
Non, tout n'est pas parfait, mais tout nécessite rodage et amélioration. D'abord, faire face à la montée en croissance des effectifs. Nous allons sans doute diminuer un petit peu la part des ateliers sportifs et culturels pour proposer d'autres dispositifs de formation. Je pense à deux choses. Le premier, un dispositif qu'on va appeler SOS Matière, où des professeurs seront à leur bureau. Nous allons mettre des bureaux pour les professeurs par discipline, où les élèves pourront venir consulter, un petit peu comme chez un médecin. Mm-hmm. J'ai pas besoin d'un cours de soutien toute l'année, mais j'ai besoin d'un conseil sur ce type de cours en français ou en maths. Et donc, je viens consulter. Des professeurs seront là pour répondre aux questions. Et puis, nous formons aussi systématiquement les élèves au secourisme. Donc, je pense qu'il y aura aussi des choses qui tourneront, non pas de façon annuelle, mais par quinzaine. Voilà les modifications, mais nous sommes en train encore de nous implanter dans des lieux. Il reste des choses à construire, mais les fondamentaux, je crois, sont là. Je n'oublie pas quand même que, quelle que soit l'ardeur des élèves, la confiance que nous ont donné les parents et l'implication des personnels, par nature, l'internat offre un calme, une bulle de sérénité à des élèves qui souvent ont des vies cassées, bousculées. Et le fait, pendant 5 jours, de n'être que dans un univers qui va vers le travail et vers leur développement personnel est déjà en lui-même un atout.
À la rentrée 2010, 11 nouveaux internats d'excellence devraient ouvrir leurs portes, dont 2 en PACA, un à Barcelonnette et l'autre à Nice.
Moi, je viens de la Martinique. Je suis proviseur d'un lycée professionnel qui accueille l'internat d'excellence, les cadets de la République. Et nous avons mis en place, dans le cadre de la politique de la ville, l'accompagnement éducatif de notre établissement, ce qui a permis à des jeunes et à notre établissement d'augmenter son taux de réussite. Néanmoins, les jeunes de chez nous, qui vont du CAP au bac pro, dans le cadre de la rénovation de l'enseignement professionnel, aujourd'hui bac pro 3 ans, nous n'avons qu'un BTS dans notre établissement, le BTS Travaux publics. Nous avons des jeunes qui veulent poursuivre des études, 7000 km, éloignement, manque de moyens. J'aimerais bien que dans le cadre de la politique de la ville, que ces jeunes puissent avoir droit à la formation d'excellence comme tout jeune français. J'aimerais aussi que dans le cadre justement de l'accompagnement éducatif, qu'on puisse, comme l'a dit tout à l'heure le membre de cette association, qu'on puisse davantage former, parce qu'il n'y a que la formation qui nous permettra de sortir nos jeunes des difficultés et qui ouvrira la porte de la mobilité à nos jeunes.
Le bac en poche, nouvelle difficulté pour les jeunes des quartiers, poursuivre leurs études dans le supérieur. Niveau scolaire élevé, inscription chère, certaines écoles restent inaccessibles. Pourtant, ces jeunes ont le niveau et les capacités pour réussir. Hubert Bonal est délégué à l'égalité des chances au sein du groupe HEC, l'école de commerce.
Nous sommes totalement alignés sur toutes les politiques qui se font actuellement dans l'éducation nationale et chez mes collègues de l'enseignement supérieur, université et grande école. Un témoignage tout simple, j'ai pris cette fonction il y a 2 mois, c'est un poste qui n'existait pas dans les grandes écoles. Nous ne parlions même pas de ce sujet-là il y a 5 ans, dans aucune grande école. Ça a été très vite. Moi, j'ai été très très surpris de la dynamique en marche, à la fois de nos étudiants, qui sont les premiers moteurs de ces mouvements, des enseignants, des postes de direction qui ont été créés ou de chargés de mission, et puis des relations que nous avons avec... ça reconditionne les relations que nous avons avec les classes préparatoires, avec les systèmes de l'éducation amont. Il est évident qu'il y a beaucoup de travail à faire. Ce sont des cycles longs. Il faut remonter sur quelques années encore. Nous touchons des élèves maintenant de classe de seconde. Donc avant de voir les résultats de nos actions, il faut attendre encore 5-6 ans. Donc c'est un cycle qui va être très long à évaluer. Mais déjà, on peut percevoir des premiers résultats. Alors que faisons-nous ? Pour HEC, nous avons levé un verrou qui était extrêmement difficile à lever politiquement, économiquement, et nous avons décidé unilatéralement d'accorder la gratuité à la totalité des élèves boursiers maintenant à HEC, ce qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que maintenant, je pense qu'on ne peut plus dire, en tout cas pour HEC, qu'il peut y avoir des obstacles financiers. Déjà, il y avait des systèmes de bourses, il y avait aussi des prêts d'honneur, des bourses d'excellence aussi internes à nos écoles. Donc, globalement, aujourd'hui, on a 18% d'élèves à HEC qui reçoivent une bourse. Mais maintenant, avec la gratuité, aucun élève boursier, finalement, ne devrait être empêché de rentrer dans notre école pour des raisons financières. Reste le plus difficile, j'allais dire, la sélectivité et notamment notre concours d'entrée qui est très exigeant. C'est un des vecteurs du mérite républicain, l'équité en est totale, mais il reste d'une part en mathématiques, en langues étrangères et aussi en culture générale, donc des obstacles très élevés. Donc il faut travailler en amont en repérant les profils et en les accompagnant. Donc il faut corriger les inégalités sociales de milieu, de jeunes qui n'ont pas les moyens, les codes sociaux, les environnements familiaux qui les stimulent suffisamment. À nous d'aller les aider. Alors, la politique nationale qui a été mise en place commence à porter ses fruits. Donc, tout à l'heure, vous avez entendu parler des cordées de la réussite. Donc, HEC est impliqué dans 4 cordées complètes et nous avons la totalité de la cordée. Alors, une cordée, c'est quoi, pour être très rapide? C'est en fait un établissement d'enseignement supérieur, une grande école, une université qui s'appuie sur des lycées que nous appelons des lycées pivots, qui ont des classes préparatoires, lesquelles s'appuie sur un relais de lycée source. Donc cet ensemble est emmené par une procédure maintenant assez bien cadrée, mais très ouverte. C'est-à-dire que ça repose sur la confiance et les relations de personnes. Et ça, en fait, ça veut dire pratiquement que nos élèves d'HEC, nous avons 60 d'élèves tous les ans qui sont impliqués dans nos cordées, plus un certain nombre de professionnels de l'éducation, de professeurs, accompagnent des jeunes, soit de lycée, soit de classe préparatoire, pour les doter, leur offrir, les emmener dans des expériences pédagogiques et voire extrascolaires qu'ils ne peuvent pas avoir dans leur lycée et encore moins dans leur famille. Voilà, donc quotidiennement, ce sont des travaux d'artisanat très très fins, mais qui font bouger l'ensemble de l'institution. Et je vous cache pas que le bénéfice qui pour moi est le plus important, c'est le regard maintenant que nos élèves d'HEC portent sur ces questions est en train de changer. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire bouger nos élèves, qui sont les futurs dirigeants des entreprises françaises et internationales, dans leur implication citoyenne.
Il y a une question qui n'a pas été posée pendant ces tables rondes, c'est la question de la stigmatisation. Sachez que qu'on nous mette des moyens pour aller en cours, pour faire de grandes études, etc., c'est bien, mais le problème, c'est l'agression qu'on subit une fois dans ces écoles, c'est le regard des autres. On le vit très mal, moi je parle en connaissance de cause. Il faudrait que l'État, je pense, et que la société change cette mentalité de nous prendre un peu en pitié, comme si on était mendiant, qu'on était là à mendier de l'aide de l'extérieur. Donc voilà.
On l'a vu,
Le gouvernement, les écoles, les universités mettent en place plusieurs dispositifs pour que les jeunes des quartiers puissent réussir tout au long de leur scolarité. Mais bien souvent, pour ceux qui réussissent, se pose un autre problème, l'emploi. Selon la dernière enquête de l'ONZUS, l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, 42% des 15-24 ans sont au chômage.
Magazine EPRA sur Divergence FM à l'instant. C'était un reportage proposé par Anne-Lise Claire de la radio nimoise Alliance Plus à l'occasion des troisièmes rencontres Espoir Banlieue qui se sont tenues à Nice le 9 avril. Rencontre initiée par le secrétariat d'État chargé de la politique de la ville et portée par Fadela Amara. Après une pause musicale, on retrouve un autre sujet autour du même thème, un sujet proposé cette fois-ci par Magali Grolier de Jet FM à Nantes. En attendant, on écoute Lonely Drifter Karen. Russian Bell Girls, c'est le titre que l'on vient d'écouter, extrait de Fall of Spring, second album de Lonely Drifter Karen, un trio que l'on retrouvera cette semaine à Montpellier au Rockstore pour un concert donc fort attendu. Vous êtes toujours sur Divergence FM, toujours dans le magazine EPRA, cette fois-ci, enfin exceptionnellement aujourd'hui, il ne vous est pas présenté, par Vincent Pourageau, que l'on retrouvera néanmoins la semaine prochaine. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure, on écoute à présent un second reportage réalisé par Magali Grolier de la radio nantaise Jet FM, toujours autour des rencontres Espoir Banlieue qui se sont tenues à Nice le 9 avril dernier.
Forum Espoir Banlieue zoom sur trois associations. Le troisième Forum Espoir Banlieue avait lieu vendredi 9 avril 2010 à Nice, en présence de nombreuses associations et autres structures, actrices et partenaires de la politique de la ville. Balade dans les allées du Palais des Congrès Acropolis l'après-midi où le village associatif battait son plein. Première interview avec Mariam Touré, membre de Ni Pute Ni Soumise, puis avec Erwan Routy, rédacteur en chef de Ressources Urbaines, l'agence de presse des quartiers, et enfin Mouni Babas, chef de projet à 2 MW en région parisienne. Après une question sur leurs sentiments quant à ce troisième rendez-vous dédié aux quartiers populaires, ils nous parlent de leur structure et de ce qui les pousse à s'investir pour un meilleur vivre ensemble dans les cités.
Je m'appelle Mariam Touré, j'ai 25 ans et je suis responsable des interventions scolaires au mouvement Ni Pute Ni Soumise. J'interviens dans les collèges, lycées, universités et maintenant j'ai développé un projet pour intervenir aussi dans les prisons, hommes et femmes.
D'abord, est-ce que vous pourriez m'expliquer la raison de votre venue aujourd'hui ici au Forum Espoir Banlieue ?
Nous avons été invités comme plusieurs associations aujourd'hui pour venir débattre justement sur les thématiques et sur les tables rondes. Et puis, il s'avère que j'ai intervenu sur le cadre de l'emploi, logement-emploi, sur les conditions des femmes, puisqu'on parle souvent de jeunes dans l'insertion ou même la réinsertion, on parle souvent de jeunes, hommes ou garçons. Moi, c'était important que je mette le point sur les femmes, comme quoi on oublie malheureusement, ou peut-être sans le vouloir, la condition des femmes pour qu'elles trouvent un emploi. Il y a aussi des femmes qui vivent seules, qui sont en monoparentalité, et quand je dis cumulent quelques petits boulots, ou même pas des fois elles ne cumulent rien, elles doivent se nourrir et faire vivre leur enfant avec des allocations familiales. Et je pense que ce sont des femmes aussi qui veulent aujourd'hui s'émanciper à travers d'une formation et après un futur emploi. Je salue le courage de Madame la ministre Fadela Amara qui nous a invité nous-mêmes et notre association pour justement nous faire partager des combats d'associations, même entreprises qui s'engagent dans les quartiers. Parce que grâce à sa nouvelle dynamique et sa nouvelle politique, elle lance aussi une nouvelle position sur la condition dans les quartiers, investir plus d'entreprises, de structures pour justement favoriser les quartiers populaires. On sait pertinemment qu'il y aurait toujours des problèmes dans les quartiers. Et c'est quand même. Après, c'est pas qu'on radote, qu'on dit la même chose, c'est que ce sont des faits qui sont là. Après, voilà, une soumise est souvent stigmatisée, dans le sens où ils disent qu'on stigmatise les quartiers. Non, nous disons une vraie réalité qui est dommage. Et qu'effectivement, on nous a entendus une meurtre d'une fille qui s'est effectuée dans les quartiers. Mais nous, on défend des femmes de toute classe sociale, de toute origine confondue. Ça, il faut le savoir aujourd'hui. Et nous défendons aussi des femmes de conditions extrêmement difficiles. Ça aussi, il faut vraiment le savoir. Maintenant, on ne radote pas, on dit que la vérité. Maintenant, après, on dit oui, sur les problèmes, est-ce que ça évolue petit à petit? Là, j'étais très contente d'entendre plusieurs entreprises dire qu'ils sont en train de réinsérer des jeunes en difficulté. Et moi, encore une fois, même un petit peu mon parcours personnel, quand je suis venue à Ni Pute Ni Soumise, moi j'avais des parrains à l'association qui m'ont suivi, parce qu'il faut savoir que moi j'ai fait un stage, j'étais d'abord stagiaire, puis bénévole, puis salarié, et aussi j'ai aussi la chance de faire mon stage à l'extérieur de mon quartier. Moi j'habite à Choisy-le-Roi, et voilà, je suis venue sur Paris, c'est pas super loin de Paris, mais j'ai franchi la barrière pour venir faire un stage, et aussi connaître quelque chose qui m'était inconnu. Vous voyez, toujours rester sur ses acquis, voilà, comme on dit chez nous, trop de quartier tue le quartier, vous voyez. Donc on a toujours cette mentalité, même si on pense bien faire. Mais non, mais justement, là, voilà, je pense pas que c'est que les quartiers Choisy-le-Roi qui ont des problèmes, les quartiers d'Orly, les quartiers de Vitry, les quartiers de Marseillais, les quartiers de Narbonne, les quartiers de toutes les villes de France confondues. Et c'est aussi important qu'avec, il n'y a pas que Nice, il n'y a pas que des structures de Nice qui sont là, il y a plusieurs structures justement pour mélanger, pour dire que ouais, il y a des problèmes et il y a des solutions, comme disait un homme tout à l'heure. Il faut aussi qu'on se prenne en main. Il faut aussi se faire de l'autocritique. Oui, les conditions ne nous permettent pas une facilité à l'emploi, au logement, à toutes difficultés confondues, on est d'accord. Mais si moi, je ne prends pas mon courage à deux mains, personne ne va le faire. Et c'est pour ça que, justement, moi, on m'a accompagnée. On m'a dit, Mariam, viens faire des débats avec nous, viens voir une vraie réalité. Et c'est à partir de là que j'ai ouvert mon esprit. Et c'est à partir de là aussi que je me suis battue. On m'aurait dit, il y a 5 ans, tu avais déjà travaillé à Nipuni Soumise. J'aurais dit, mon œil, c'est pas vrai. Maintenant, grâce à, voilà, moi, pour moi, Nipuni Soumise, c'était une école. Une deuxième école après mon lycée, c'est devenu, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et c'est très, très important d'avoir un parrain ou une marraine. Pas forcément connu, mais quelqu'un qui vous épaule, on va dire comme une grande soeur, grand frère, mais quelqu'un vraiment, voilà, qui vous permette aussi d'avancer.
Par rapport à Ni Pute Ni Soumise, quand vous étiez, vous dites que vous venez de Choisy-le-Roi, est-ce que vous en aviez entendu parler avant ou qu'est-ce, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller faire un stage là-bas?
En fait, une petite anecdote, moi, effectivement, je viens de Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, dans le 94, et il fallait que je fasse un stage. J'avais déjà fait un stage marchand, j'étais en bac pro service assistante conseil et il fallait un stage non marchand. Donc le monde associatif m'interpellait pas mal, surtout je commençais surtout les droits des femmes, tout ça, Ni Pute Ni Soumise. Il s'avère que Swan, paix à son âme, une jeune fille qu'on a brûlée parce qu'elle a refusé les conditions violentes de garçon, a été tuée dans le local à poubelle, et Vitry-sur-Seine, c'est une ville qui est proche de ma ville. Donc j'en avais entendu parler, plus ou moins. Donc je me disais quand même, Ni Pute Ni Soumise, un nom vulgaire, qu'est-ce qu'ils disent, pourquoi ils disent, voilà, ils stigmatisent un petit peu. Donc moi, je voulais vraiment voir. Et moi, je suis quelqu'un, si vous voulez, je préfère critiquer, de connaître, pour après critiquer. Pas critiquer sans connaître. Et malheureusement, c'est un défaut français que nous avons, c'est de faire toujours le contraire. Et voilà, donc après, je suis commencé à faire mon stage, on m'a accueilli. Et moi, si vous voulez, je voulais pas me prononcer. Donc tout ce qu'on me disait, je disais oui. Oui, oui, pour avoir de problème. Et un jour, on m'a dit, avec Fadel Amara, je dis, voilà, je la remercie tout le temps quand j'ai l'occasion de parler. C'est que c'est une femme qui m'a beaucoup appris, dans le sens où, un jour, elle m'a dit, mais Mariam, tu dis toujours oui, mais tu te fous de nous. On sait très bien que tu penses le contraire, pourquoi tu nous le dis pas? Après, c'est bon, d'accord, c'est vrai. Donc j'ai dit, voilà, et après, j'ai dit, voilà. Et grâce à elle m'a fait découvrir pas mal de choses. J'ai pu aussi, en faisant mon stage, prendre le téléphone. Et on avait des femmes qui étaient victimes de mariage forcé dans leur pays d'origine, on va dire. Et justement, elles appelaient en France pour qu'on les sauve de ce drame. Et par rapport à ça, il y a pas mal de tilts qui m'ont fait qu'il y a un gros problème. Pas, après, c'est vrai, je me suis dit, pas forcément dans les quartiers populaires. Oui, il y en a beaucoup plus. Mais dans les autres quartiers, on peut avoir même des femmes de très, très bien passées n'importe où. Et pour dire oui, elles viennent ici chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est triste. C'est pour dire que la violence, oui. Après, moi, je préfère qu'on stigmatise les hommes violents. Oui. Et du coup, de toute religion confondue, de toute classe sociale confondue. Ça, oui. Mais qu'on nous dise tout le temps qu'on stigmatise les quartiers, ça, j'en ai marre. On a entendu. Si on comprenait pas, d'accord. Mais là, maintenant, je pense qu'on est en 2010. Il faut changer, c'est vrai, faire peut-être la communication, mais on dit clairement, on aide toutes les femmes victimes de violences. Verbales, physiques, morales, n'importe, on les aide. Et donc voilà, en tout cas, c'est important de voilà. Et puis par rapport à ça, ben, j'ai vu pas mal de choses. J'étais stagiaire en 2005, après bénévole, je venais dans des actions, manifestations. Il faut savoir qu'aussi que moi, j'accompagne aujourd'hui des femmes victimes de violences aux hôpitaux, aux commissariats, à la préfecture. Donc pas mal de choses, quoi. Et après, je suis devenue salariée en 2007, en avril. Donc là, ça fait 3 ans que je suis salariée. Et dans la globalité, ça fait 5 ans que je suis mouvement Ni Pute Ni Soumise. C'est comme si j'avais aussi grandi.
Avec le mouvement.
Exactement. Assumer être Ni Pute Ni Soumise aujourd'hui, d'accord? Moi, je vais vous dire la vérité, au début, c'était difficile pour moi, en plus j'habite dans un quartier populaire. À un moment donné, on est contre le voile, le foulard, le voile forcé et la burqa, il faut arrêter de se voiler la face. Ça rime bien. À un moment donné, si on me dit au début, on a mal compris votre message, je suis d'accord. Aujourd'hui, il faut arrêter qu'on dise les musulmans non. Je suis musulmane, de confession musulmane, mes parents sont extrêmement croyants, extrêmement pratiquants, pour vous dire, d'accord? Parce que moi, pour moi, voilà. Et moi, ça me choque quand. Et si vous voulez, c'est une facilité de dire oui, vous stigmatisez les quartiers, les musulmans. Mais qu'est-ce qu'on stigmatise? Donc ça veut dire quoi? Donc pour eux, ça veut dire que dans les quartiers, il n'y a que des musulmans. Non. Ils se stigmatisent, ils se sous-estiment eux-mêmes. Ils ne comprennent pas. Moi, je peux venir à Nantes faire des interventions scolaires. Moi, je fais des interventions scolaires partout. On m'appelle, j'en fais. Ce qui me fait mal, c'est que ces gens-là, ils vont vous dire oui, ils vont aussi parler de culture ou de coutume. Ah bah, c'est trop facile. Et si vous voulez, ce qui dérange les gens, c'est que ce sont des filles issues de l'immigration française, hein, parce que moi, je suis française. Hein. Madame Touré, voilà, je suis française, d'accord? Je suis née ici, je suis française. Qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, je suis française. Mais ce que dérange ces jeunes, autant filles que garçons, hein, faut pas toujours dire que les garçons, filles, j'ai bien dit filles que comme garçons qui nous disent ça, moi, je leur dis, la vérité, on ne va pas te voiler la force encore une fois. Parce que votre problème, c'est qu'on est... issus de l'immigration, noirs, arabes, chinois, indiens, n'importe, même péruviens, n'importe, c'est qu'en fait, ça vous dérange que des Français issus de l'immigration parlent justement de ces problématiques-là, des femmes victimes de violences. Et ça vous choque. Parce que ça veut dire quoi, en fait? Que moi, je m'appelle Maram Touré, qu'il faut que je sois victime de polygamie, qu'il faut que je sois victime de mariage forcé, qu'il faut que je sois victime d'excision, parce que c'est comme ça que ça se passe chez moi. Et c'est encore une fois que les femmes qui subissent ça, j'ai remarqué. Et quand moi je parle d'excision, j'ai toujours que l'excision, ça n'a rien à voir avec la circoncision. On est d'accord? Parce que sinon ils vont vous dire quoi? C'est comme ça chez nous. Mais faut savoir, des fois vous êtes français, des fois vous êtes africain. Le problème, oui, on a la chance d'avoir une double culture. Une double culture. Moi je suis très très fière de ça. À un moment donné, faut arrêter, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, en plus, ce sont des gens qui n'ont pas 12, 13 ans, peut-être des jeunes 15 ans et plus, hein, 20 ans, 25 ans, voire 30 ans, ça veut dire quoi? Qu'on est noir et arabe, on doit subir des violences? Au nom de quoi? Parce que c'est comme ça chez nous, mais c'est bizarre, hein, c'est chez nous, et c'est souvent les filles qui payent. C'est ce que j'ai remarqué, moi. Après, tu oui, les filles... Moi, j'aimerais pas que vous mettez à notre place. Après, on va dire, oui, il y a des hommes qui se font battre, il y a des hommes marrés de force. On est d'accord. Mais c'est une petite minorité, on est d'accord. D'accord? Aujourd'hui, il y a des filles qui meurent. Il faut savoir qu'il y a plus d'une femme qui meurt tous les deux jours et demi sous les coups de mari ou d'un conjoint. Moi, j'habite à Choisy-le-Roi. Justement, il y a deux semaines, j'ai organisé avec la famille un rassemblement pour une jeune fille qui s'appelle Patricia Cetou, qui n'habite pas dans un quartier. Il faut savoir que Choisy-le-Roi aussi, il n'y a pas que des quartiers. Dans chaque ville de France, il n'y a pas que des quartiers. Une fille tranquille, un homme qui est tombé éperdument amoureux d'elle, il est venu chez elle, il l'a tuée. Et c'est aucun rapport avec les quartiers. Donc il y a eu quand même pas mal de soutien de collectivités locales et pas mal de choses. Ça n'a rien à voir avec les quartiers, rien à voir. Nous, on défend toutes les femmes. Moi, ça me fait mal aujourd'hui que, on va dire, le début du sémisme, on pouvait le dire, les gens ne savaient pas trop. Mais là, il faut arrêter. On nous voit dans nos actions. On défend aussi même, j'interviens sur les violences faites aux femmes, sur les violences globales, sur les discriminations, la laïcité, la mixité, le racisme. Moi, j'interviens beaucoup. Et j'interviens même aussi sur les gangs, parce que j'ai vécu... J'ai connu et moi je pars toujours en connaissance de cause. Et malheureusement, les gens qui connaissent pas, ils parlent. Quand je connais pas, moi je me tais. Souvent, on prend même aussi, si vous voulez, des jeunes qui doivent faire des travaux d'intérêt généraux. Et qui aussi avaient une très mauvaise image négative de Ni Plus Ni Soumise. Ça, c'est clair. Et quand ils ont vu une semaine, ils ont fait alors ça, c'est plutôt entre une semaine et un mois. Ils voient les femmes victimes de violence. Ils voient très bien que ce n'est pas des comédiennes, hein, qui ne sont pas inscrites au cours Florent ou à Star Academy pour venir parler de leur souffrance. Ou peut-être qu'elles ont des bleus, mais c'est, vous voyez ce que je veux dire? Et quand ils voient ça, ils se disent, même eux-mêmes, hein, peut-être que voilà. Et souvent, c'est pour ça que moi, j'incrimine pas toujours les jeunes, tous les garçons. Souvent, quand ils frappent, quand ils insultent, pour eux, c'est normal, c'est banal. Ils ne font pas attention souvent. Parce que la violence, même injurieuse et verbale ou physique, est devenue banale. Et si vous voulez, ils ne voient pas ce qu'ils font. Moi, par exemple, moi, j'essaie de monter un projet sur, si vous voulez, tout ce qui est film pornographique à la télé, sur Internet. Moi, ça me choque. Même les pubs sexistes, c'est quoi ça? Pour vendre une barre de chocolat, il faut montrer ses tétons. Mais quel est le rapport? Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Maintenant qu'on me dise, Mariam, il faut changer... le regard, et moi je dis hommes et femmes, hein, pas que les hommes, hommes et femmes, pour avoir un meilleur vivre ensemble, moi je suis avec vous.
Thank you. quartier, je suis responsable de ressources urbaines de l'agence de presse des quartiers et cofondateur de Presse et Cité, qui est une association qui existe depuis un an et quelques et qui est un réseau de médias issus des quartiers.
D'où ça vient en fait la création de cette structure?
La nécessité que les habitants des quartiers populaires prennent eux-mêmes une partie de la manière de communiquer et d'informer sur ce qui se passe dans ces quartiers-là pour pouvoir valoriser des choses un peu différentes de ce qui peut se lire, se voir ou s'entendre dans les médias grand public. 12 ans d'expérience dans des médias issus de banlieue qui font cette analyse que globalement le traitement médiatique des banlieues est totalement lamentable. Il l'a été pendant très longtemps en tout cas, et donc il y a une nécessité de faire autrement tout simplement. Je pense que tout le monde est là. C'est un lieu, c'est enfoncer les portes ouvertes de dire le contraire.
Est-ce que justement vous pourriez enfoncer les portes ouvertes et me dire, donner quelques clichés qu'on peut entendre classiquement dans les médias?
C'est pas des clichés, c'est justement une incapacité à parler du quotidien et une surcapacité à ne parler que des événements extraordinaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. De parler de choses très tout en noir ou tout en blanc, sans parler d'éléments de la vie quotidienne qui permettent aux Français qui n'habitent pas dans les quartiers de comprendre ce qui s'y passe et donc de se sentir vivre dans un même pays, de vivre des mêmes réalités sociales, économiques, culturelles, etc.
Alors comment vous vous y prenez justement?
On est issus, l'essentiel des rédacteurs de ces quartiers, de ces médias et de ressources urbaines en particulier sont issus de ces quartiers-là. Ceux qui n'y sont pas issus, ceux qui n'en sont pas issus, viennent ou ont travaillé pendant très longtemps dans des médias issus des quartiers, donc connaissent très bien ces questions-là. Et du coup, ça nous permet d'avoir des angles, de ne pas être hors sol comme le reste de la presse qui ne fréquente pas ces quartiers-là, qui ne connaît pas ce qui s'y passe, etc. Et du coup, ça nous permet d'avoir des angles de vue, d'avoir des idées de sujets, d'avoir des contacts particuliers que les autres médias n'ont pas.
Pour quelles raisons, selon vous, les autres médias font peut-être un petit peu des stéréotypes sur la banlieue?
C'est pas des stéréotypes, ils font pas plus de stéréotypes sur la banlieue que sur d'autres sujets d'ailleurs, mais il se trouve juste qu'ils connaissent moins ces quartiers-là quand même effectivement que les autres, que d'autres sujets qu'ils peuvent traiter sur des questions, sur d'autres types de questions. Mais si on fait le parallèle avec le monde paysan par exemple, lesquels les médias ne sont pas très compétents non plus à la base, ils ne sont pas issus, sont rarement issus de milieux d'agriculteurs, les journalistes, comme cela dit. Les clichés qui sont véhiculés sur le monde paysan ne sont pas exactement les mêmes que ceux qui sont véhiculés sur les banlieues. En général, on a des clichés plutôt positifs sur le monde paysan et des clichés plutôt négatifs, grosso modo, sur les banlieues. Et donc, il y a, je dirais, un passif, dans un cas, sur les banlieues, qu'il n'y a pas sur d'autres sujets. Donc, globalement, on a effectivement des élites médiatiques, des gens qui font les médias, qui ont beaucoup de mal à passer du temps sur le terrain pour des questions budgétaires, pour des questions de manque de réseau, etc., qui font que, globalement, on est toujours dans du vite fait.
Tout à l'heure, je voyais que certains médias sont quand même pliés au jeu, notamment, là, c'était une édition du Monde, mais qui remonte un petit peu, avec des personnes qui résident dans le 93 qui ont fait la Une du Monde, ou le journal en entier, je ne sais pas trop.
Le journal en entier.
Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez pu utiliser ce partenariat?
C'est pas un partenariat, ça a été fait par nous de A à Z, sans Le Monde. Pompé la maquette intégralement. On a fait des ateliers d'écriture avec donc, cette association de Seine-Saint-Denis, de Saint-Ouen précisément. On a intégralement recopié la maquette parce que c'était ça qui intéressait les jeunes de l'association, c'était de copier le journal de référence. Une fois que tout a été fait par nos propres soins, on a envoyé le projet fini au journal Le Monde, qui a accepté le truc, qui a trouvé ça vachement intéressant et qui a décidé de diffuser les 450 000 exemplaires, mais sans en avoir aucune connaissance du début jusqu'à la fin, et sans y avoir participé, sans avoir financé quoi que ce soit. Et c'était une opération de com' pour eux.
Mais alors, de quel œil vous regardent les autres médias, Le Monde par exemple, ou peut-être d'autres grands médias, Libé, Le Figaro?
Ils ne voient pas.
Selon vous, ils ne se posent pas de questions en fait, sur la banlieue, ne serait-ce que sur leur traitement, le traitement qu'eux peuvent avoir là-dessus?
Ils s'en posent beaucoup. Quand leurs journalistes se font casser la gueule, ils s'en posent. Quand il y a des émeutes, ils s'en posent. Quand on leur fait tel ou tel reproche, ils s'en posent. Mais comme c'est un milieu endogame, complètement fermé dans son tour d'ivoire et incapable de discuter, de se remettre en question, à part de manière purement verbale, et qui a une incapacité à travailler avec d'autres gens qui est assez phénoménale, ils considèrent que tous ceux qui ne sont pas issus du sérail n'ont pas droit au chapitre et n'ont pas de choses plus intéressantes à proposer que... Bon, par ailleurs, c'est des médias, globalement, des médias grand public qui sont en crise depuis assez longtemps. Du coup, fatalement, ils ont du mal à se remettre en question.
Pour autant, on a entendu quand même pas mal parler, et encore de temps en temps, du Bondi Blog, par exemple. Je crois qu'il fait partie du réseau. Est-ce que ça fait un petit peu émerger des choses, enfin...
Tout à fait. C'est en train de faire avancer le recrutement dans les écoles de journalisme. C'est une très bonne chose qui existe depuis 2-3 ans.
Dernière question sur le Forum Espoir Banlieue, la raison pour laquelle vous êtes ici.
Parce qu'on vous a sollicité. Je pense que ça a un intérêt limité en ce qui me concerne, mais toujours utile de savoir un petit peu ce que les institutions pensent et ce que les officiels pensent et veulent faire, et de voir le décalage qui existe entre ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils font. Il y a un décalage incontestable, mais bon, ça ne surprendra personne. Il y a une incapacité à financer les projets sur le long terme, à avoir une vision à long terme qui est réelle.
Je m'appelle Mounib Abbas, donc je suis chef de projet au sein d'une association, donc elle s'appelle 2 Mégawatts. Donc c'est une association qui vise à favoriser l'expression des jeunes à travers diverses activités, donc ça va de la vidéo au journal, au BMX, etc. Donc, c'est une association qui se trouve sur Cergy.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer la raison de votre venue ici aujourd'hui au Forum Espoir Banlieue ?
Donc nous on a été invités par l'Accès, donc ils nous financent sur un projet qui s'appelle Une essence ignorer la loi, et donc c'est eux qui nous ont invités à venir participer à ce forum, donc ça fait la troisième fois qu'on est invité.
Vous m'expliquez un petit peu ce que c'est que ce projet Nul n'est censé ignorer la loi ?
C'est un projet d'éducation à la citoyenneté, en fait c'est un rallye citoyen. Donc on amène un groupe de jeunes à connaître l'élaboration de la loi jusqu'à l'application. Donc voilà, à travers un rallye citoyen, donc on a des visites à l'Assemblée nationale, chez les pompiers, à la gendarmerie, au tribunal, donc voir des juges pour enfants, des procureurs, des greffiers. Donc ils comprennent le fonctionnement de la justice, des institutions. Donc en fait, c'est un constat qu'on a fait après les émeutes en 2005, exact. Donc voilà, c'est un constat qu'on a fait. On a rencontré une dame qui s'appelle Zora Arash, qui était juge pour enfants, si je ne me trompe pas. Et donc il nous a parlé d'un projet similaire qu'elle faisait elle sur la commune de La Rochelle. Et donc on s'est rencontrés et on a décidé de créer justement ce projet Nul n'est censé ignorer la loi. Donc voilà, tout simplement.
Dernière question par rapport aux jeunes qui participent notamment à cette action-là, Nul n'est censé ignorer la loi. Quel est leur ressenti? Quel est leur retour?
Alors leur retour en fait c'est simple, c'est tout au long du rallye citoyen, ils ont un carnet de voyage, donc une sorte de carnet de liaison. Et dans lequel on demande, au moment où on leur remet, comment ils se placent vis-à-vis de la loi avant le projet. Et on repose la même question sur le carnet et elle est posée la même question après le projet. Donc voilà, c'est comme ça qu'on obtient notre bilan en définitive.
Et alors, ils sont la tendance générale, c'est quoi ?
La tendance générale, c'est qu'ils disent qu'ils voyaient pas, ils voient les policiers, les gendarmes, les pompiers d'un autre œil, et ils comprennent leur métier, ils comprennent qu'il y a un homme finalement derrière un uniforme. Et donc voilà.
Ça fait la troisième fois que vous venez à ce Forum Espoir Banlieue. Qu'est-ce que vous en pensez de cet événement-là ?
C'est un événement qui a pour but aussi de faire rencontrer les associations, les acteurs, les acteurs sociaux. Donc c'est toujours bien de se rencontrer, de faire découvrir son association, son projet. Donc c'est toujours bien. On sait tous que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et souvent, des associations ont souvent des beaux projets et ils ne peuvent pas les mener jusqu'au bout du fait de manque de financement. Mais bon, donc...
Voilà, c'est un reportage réalisé à l'occasion des troisièmes rencontres Espoir Banlieue, rencontres qui se sont tenues à Nice le 9 avril, des rencontres initiées par le secrétariat d'État chargé de la politique de la ville et portées par sa secrétaire d'État, Fadela Amara. Et c'était un reportage réalisé par Magali Grolier de la radio nantaise Jet FM. Ainsi se referme donc ce magazine EPRA présenté et mis en onde aujourd'hui exceptionnellement par Manuel Plaza et coordonné par Vincent Pourageau qui reprendra dès la semaine prochaine les commandes de cette émission. On vous souhaite donc une bonne semaine.